France Culture.
Et c'est reparti pour les Midis de Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez. À 13h, je recevrai le romancier espagnol Javier Sercas pour son roman Le fou de Dieu au bout du monde. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Une affaire secoue les acteurs de l'architecture en France. Elle concerne une tribune d'un chercheur, Mathias Rollo, qui accuse le cabinet Chartier-Dalix de se servir des fonds pour la recherche en construction durable à mauvais escient. Un cas de greenwashing, donc, cette pratique qui consiste à utiliser l'écologie à des fins marketing seulement pour l'image et pas pour la planète. Ce qui aurait pu rester un débat intéressant par ailleurs sur le bilan carbone des chantiers se transforme aujourd'hui en affaire juridique. Est-il possible de penser une architecture réellement verte? Les architectes de demain vont-ils simplement renoncer à construire? C'est le dossier du Point Culture du jour. Jean-Louis Violeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Alors que l'affaire qui oppose le chercheur Mathias Rollo et le cabinet Chartier-Dalix est de nouveau dans l'actualité, je voulais revenir avec vous sur le fond de l'histoire, à savoir ce que l'on appelle communément le greenwashing. Est-ce que l'écologie en architecture n'est qu'un argument de vente selon vous ?
Oui, on peut dire que le greenwashing est un alibi pour beaucoup d'acteurs qui se pressent autour de ce qui est aussi un marché immobilier. C'est-à-dire que l'architecture n'est pas que une activité culturelle, elle engage aussi beaucoup d'activités économiques autour d'elle. C'est ce qui fait d'ailleurs son intérêt pour un sociologue. Et il est immanquable, évidemment, que le greenwashing est devenu au fil des ans, surtout depuis les années 2010, un argument publicitaire. Avec un effet de cliquet qui, à mon avis, se situe justement au début de la décennie qui nous précède. C'est-à-dire que les années 2000 ont fait preuve d'un optimisme sans doute abusif au regard du développement durable, qui est devenu à partir du début des années 2010 l'équivalent d'un capitalisme vert pour d'autres, qui se sont mis de leur côté à plutôt envisager la fabrique de la ville sous l'angle de la décroissance. Et ce projet est clivant. On peut dire qu'il est, c'est une ligne de fracture assez nette dans le monde des architectes, parce que quand on fait un projet, on consomme des ressources.
Mais qu'est-ce qui différencie une approche réellement écologique d'un simple verdissement d'image quand on conçoit un bâtiment ?
Je pense que c'est presque impossible finalement d'être réellement écologique en faisant de l'architecture. Une architecture écologique, c'est forcément cosmétique. C'est un autre mode de penser la ville, certes, mais il y a forcément un aspect superficiel, puisque le projet en lui-même va occuper un champ où jusqu'alors il y avait des vaches ou un bois dans lequel il y avait des oiseaux. Et c'est ce qui pousse les architectes aujourd'hui à une ligne de clivage assez forte, je dirais, entre ceux qui travaillent et puis ceux qui sont plutôt dans la sphère académique, stricto sensu, ou qui ne travaillent pas ou ne travaillent plus.
Alors, peut-être juste pour revenir sur ce qui oppose Mathias Rollo et Chartier-Dalix, et ça va dans le sens de ce que vous étiez en train de dire. Mathias Rollo dit que certaines agences se cachent derrière un propos écologique pour masquer une logique spéculative. Qu'est-ce que vous en pensez de cette critique-là ? Est-ce que vous la trouvé pertinente?
C'est indéniable et en même temps, tout dépend des mots avec lesquels on retranscrit cette sorte de décor vert qui s'est en effet plus ou moins imposé ces dernières années sur les projets. En revanche, où j'ai plus de mal à le suivre, c'est lorsqu'il dit, le greenwashing est moralement, et je crois que moralement est très important dans cette posture, est moralement plus condamnable que ceux qui font du business as usual. Et là, c'est un vrai point de débat. Bernard Huet, un architecte assez connu à l'époque et un théoricien assez connu, a dit jusqu'au début des années 80, je suis architecte parce que je ne construis pas et je ne construis pas parce que je suis architecte. Sous-entendu, parce que j'ai les moyens critiques de savoir ce qui se cache derrière la fabrique de la ville et du bâtiment, donc j'ai décidé de ne pas construire. Et ben, je pense qu'on est un peu revenu, et ensuite Bernard Huet travaillera, c'est lui qui a refait les Champs-Élysées à la fin des années 1990.
Mais justement, je voulais revenir sur cette idée de ne pas construire. Vous êtes professeur dans une école d'architecture, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes architectes ou les futurs architectes épousent ce geste-là de ne plus construire? Ils vont peut-être plus vers une réhabilitation, une restauration. Est-ce que ne plus construire, c'est encore un geste radical?
Oui, c'est évident, ils adoptent cette position. Mais ceci dit, réhabiliter et rénover, c'est aussi déjà consommer de la ressource, n'est-ce pas? Donc c'est aussi émettre un bilan carbone. Mais il faut bien faire des projets, hein. Comme disait Maurice Godelier, l'homme est un animal utopique, c'est-à-dire qu'il fait des projets toute la journée, sauf si c'est au bord de la tombe ou dans un profond burn-out. Donc oui, on fait des projets, et on consomme toujours de la ressource, et on émet toujours du carbone. Mais en effet, il y a diverses manières de les faire, ces projets. Je pense que ce que Chartier d'Alix ont très mal digéré, c'est qu'on peut le reconnaître d'avoir été attentif très tôt à ces questions. Alors qu'ils se soient fait un nom autour de ces questions et qu'ils aient accumulé un capital symbolique, pour parler comme un sociologue, lié à ces architectures, c'est indéniable. Pour en faire une des plus grosses agences d'architecture françaises aujourd'hui, hein, de plus de 80 salariés, d'un chiffre d'affaires du top 50, comme on l'appelle, des agences d'architecture françaises.
Et ils mettent aussi en avant, eux, une recherche, hein, d'ailleurs, et une technicité derrière cet argent-là.
C'est vrai. C'est une question long cours et l'une de leurs associées a d'ailleurs mené une thèse à ce propos. Et puis, ils ont accueilli une doctorante à un moment donné en chiffres. Mais en effet, et c'est un peu ça, je pense, qui les a saisis et qui a engagé cette réponse idiote de faire appel à un avocat. Parce que je pense, et puis on est quelques-uns à le penser, qu'il y a quand même plus de 500 signataires maintenant de la pétition, les questions de critique architecturale ne doivent pas être réglées par les avocats et encore moins par les procureurs.
Oui, c'est presque des critiques philosophiques, on est presque sur l'éthique là, de votre métier.
Absolument, parce que l'architecture, c'est un objet public. Tout le monde y est confronté sans l'avoir cherché. Vous devez vous abonner à Spotify pour écouter de la musique, aller dans une librairie pour lire un livre. L'architecture, non. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a une loi qui a été votée en 1977, qui dit que l'architecture, et en particulier la qualité architecturale, la qualité des constructions, est d'intérêt général, d'intérêt public. Et les architectes sont très contents d'avoir une loi. Ben, ils trouvent ça très bien parce que c'est un objet culturel impur et parce que c'est un objet culturel public auquel tout le monde est confronté. Donc la critique qui doit être portée sur l'architecture, elle est publique, elle est d'intérêt général. Et même si le ton de Mathias est un peu outré dans son article, même s'il a des tonalités pamphlétaires, après tout c'est une critique. Ce n'est pas une recherche, c'est une critique. Et la critique a sa place et elle est parfois injuste. Mais bien sûr que la critique est injuste.
Mais elle fait avancer le débat, c'est ce que vous dites.
Oui, j'ai pas compris qu'on cherche à régler ces questions-là par le biais d'un avocat, alors qu'il suffisait d'écrire un droit de réponse dans la foulée et de lancer un débat pour justement avancer contradictoirement, mais avancer sur ces questions qui nous préoccupent tous.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Violeau de tous ces éclaircissements.
C'est moi qui vous remercie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le Centre Pompidou bientôt inscrit aux monuments historiques.
Oui, alors que les travaux de rénovation de Beaubourg doivent commencer fin septembre pour une durée de 5 ans, son directeur Laurent Lebon a déclaré dans une interview au Figaro que le musée allait être inscrit aux monuments historiques en 2026. Une déclaration rare pour un bâtiment de moins de 50 ans qui permettra entre autres d'assurer une meilleure protection de l'édifice de Renzo Piano. La réouverture est prévue en 2030.
Une découverte à présent, un tableau oublié de Rubens refait surface à Paris.
Ouais, le commissaire-priseur Jean-Pierre Aussenat a annoncé avoir retrouvé une œuvre de 1613 du peintre flamand représentant le Christ en croix. Bien que la découverte du tableau a été faite en septembre 2024, il aura fallu près d'un an pour qu'il soit authentifié par Niels Büttner. C'est le directeur du Rubenianum, l'organisme chargé de l'étude de l'œuvre de Rubens. De belles dimensions, hein, 105 cm de hauteur pour 72 de largeur. Cette représentation du Christ sera vendue aux enchères le 30 novembre prochain à Fontainebleau. Et pour l'instant, son estimation se situe entre 1 million et 1,5 million d'euros.
On a appris que Gisèle Pellicot sortira ses mémoires en février prochain.
Rédigé avec la journaliste Judith Pérignon et La joie de vivre, c'est le titre, hein, sera publié par les éditions Flammarion. Gisèle Pellicot y racontera sa version des faits, tout en cherchant à transmettre un message d'espoir aux victimes, mais aussi à ses soutiens. La sortie mondiale du livre est prévue le 17 février et on sait déjà qu'il sera traduit dans une vingtaine de langues. Son tirage en France est estimé à plus de 100 000 exemplaires.
Et pour finir, Marie, débute demain le festival Livres sur la place à Nancy.
Oui, présidé cette année par Guillaume Gallienne, cette 47e édition qui se déroule jusqu'à dimanche accueillera près de 200 auteurs entièrement gratuits. L'événement ouvre chaque année la saison littéraire et propose au public de rencontrer de nombreux écrivains. Seront notamment présents cette année Laurent Mauvigné, Emmanuel Carrère, Laïla Slimani ou encore Maria Pourchet. À noter qu'un hommage sera rendu à l'écrivain Boualem Sansal en présence de Kamel Daoud et que les jurés du Goncourt remettront le Goncourt de la biographie à l'écrivaine Anca Vizdei pour son ouvrage sur le philosophe roumain Cioran, intitulé Cioran ou le guet des espoirs.
Et j'ajoute à cette liste le nom de mon invité du jour, Javier Cercas, qui sera à Nancy demain. Merci Marie, on se retrouve demain.
Avec plaisir, à demain Marie.
Oui, en attendant, il est 13h.